même d'intervenir sur le développement durable. Le développement durable, c'est un sujet très très large qui peut être abordé de beaucoup beaucoup de façons différentes. J'ai choisi de l'aborder au travers, enfin, au regard selon lequel nous on l'aborde en recherche, qui est la question de l'évaluation. Parce que effectivement, bon, c'est bien beau de dire qu'on veut tendre vers le développement durable, mais en même temps, si on garde les mêmes outils, les mêmes lunettes, les mêmes thermomètres pour évaluer la santé et les directions vers lesquelles on s'oriente collectivement au niveau de la société, ben, on ne va pas vraiment changer notre processus de développement. On va continuer à faire la même chose. Donc, tout l'enjeu du développement durable, c'est un peu, entre guillemets, de changer de thermomètre, changer de lunettes pour essayer de voir différemment les enjeux qui se présentent. Donc, la présentation d'aujourd'hui, donc ça va être d'abord une petite introduction à la notion de durabilité, aux différentes approches qu'on peut avoir. On verra que ça peut être ressenti de façon très différente selon les différents acteurs. Et ensuite, on va rentrer dans la question de la mesure. Et en particulier, je vais vous présenter un indicateur sur lequel donc, on travaille avec Aurélien Boutot, qui est l'empreinte écologique. Je ne sais pas, vous en avez déjà entendu parler, l'empreinte écologique ? Non ? Oui, certains, voilà. Je ne sais pas si... c'est ce qui permet, par exemple, de dire... Donc, par exemple, le président Chirac, à la conférence de Johannesburg en 2002, avait fait un discours qui avait fait beaucoup de bruit, où il avait dit « Si tout le monde vit comme un Français, il faudrait 3 planètes pour vivre. » Voilà, et bien ce 3 planètes, comment est-ce qu'il est calculé ? Je vais vous le dire, il est calculé par l'empreinte écologique. Donc c'est un indicateur assez médiatisé, mais on verra ce qu'il cache vraiment derrière comme hypothèse. Et ensuite, on va voir les résultats de cet indicateur, hein, un petit peu, et en guise de conclusion, une démarche pour essayer de tendre vers une planète. Donc si on est passé de 3 à une planète, donc comment on peut faire pour essayer de tendre vers ça ? Donc, introduction sur la notion d'indicateur, puisque les indicateurs, c'est un petit peu tout ce qui guide les décisions hein, des différents acteurs. Donc, vous connaissez peut-être ce tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, qu'est-ce que c'est ? Exactement, très bien, ceci est une représentation de la réalité, c'est un tableau. C'est un dessin et c'est pas un objet réel. Donc en fait, c'est une construction. Et un indicateur, c'est un petit peu pareil. C'est une conception où on va choisir de représenter certaines données, on va choisir d'extraire certaines données et de les intégrer dans un indicateur. Donc par exemple, tous les indicateurs, vous connaissez quoi comme indicateur pour, par exemple, quand on parle de développement d'un pays, en général, c'est quoi l'indicateur qu'on va... Le PIB, voilà, très bien. Donc le PIB, c'est une représentation, de la même façon que l'empreinte écologique. Hein. C'est une construction. Quand on regarde vraiment, est-ce que le PIB croît ou est-ce qu'il décroît, bon, il faut quand même être conscient du fait que derrière tout ça, ça a été des choix méthodologiques à un moment de prendre en compte certains aspects et pas d'autres. Voilà, donc la problématique, c'est de représenter un concept. Et le concept qu'on veut représenter aujourd'hui, c'est la durabilité. La question de est-ce que nos modes de vie au niveau de la société, est-ce qu'ils sont durables ou pas ? Et donc voilà, donc on s'aperçoit que les indicateurs économiques tels qu'on les connaît actuellement, ils ne sont pas forcément très bien outillés pour répondre à cette question. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler, l'exemple qui est fréquemment repris par rapport au PIB, c'est les accidents de voiture. On pourrait parler de choses beaucoup plus graves, par exemple ce qui se passe au Japon. Bon, quand on regarde en termes de PIB, on peut se dire que ça peut être positif parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a un accident de voiture ? Après, il va falloir réparer la voiture ou racheter une voiture, etc. Donc y en a qui disent c'est que le PIB, il retrace de façon plutôt positive le fait qu'il y ait des accidents de voiture, par exemple, parce que ça crée de l'activité économique. Il y a eu, sans parler du tremblement de terre au Japon, il y a eu des inondations en Australie, et il y avait des économistes, très vite, vous en avez sûrement entendu hein, parler au début de cette année, en janvier, des inondations dramatiques aussi, vraiment très importantes, et les économistes disaient, pour le PIB, c'est peut-être pas si négatif que ça, parce qu'il va falloir reconstruire derrière, ça va être de l'activité, etc. Après, la notion derrière des vies humaines, etc., c'est pas pris en compte par le PIB, donc on peut se questionner sur cet indicateur. qui est de toute façon qui doit être utilisé, enfin qui est utilisé et qu'il faut que vous connaissiez. Mais l'idée, c'est d'avoir d'autres paires de lunettes pour essayer de voir d'autres enjeux. Donc la notion de développement durable, donc je crois que vous avez déjà eu. Rentrez, allez-y. Donc la question du développement durable, donc c'est un concept qui a commencé à émerger sur la prise en compte des limites de la planète, donc à la fin des années 70, et un peu le rapport clé qui a posé les définitions du développement durable, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le fameux rapport Brundtland, donc où la première ministre, enfin la ministre de l'environnement norvégienne Harlem Brundtland a interrogé des centaines et des centaines d'experts entre les années 85 et 87 et a fait un très gros rapport que vous pouvez trouver sur internet qui a défini cette notion de développement durable comme étant un développement qui permettait à la fois de répondre aux besoins des générations présentes mais aussi de satisfaire les besoins des générations futures. Donc ça, c'est un des éléments clés de consensus dans cette notion de développement durable, c'est cette question de la solidarité entre les différentes générations, c'est-à-dire léguer à nos enfants et petits-enfants une planète qui leur permette de vivre dans des conditions aussi bonnes que les nôtres. Donc ça, bon, à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Le deuxième principe qui fait consensus, c'est la notion de transversalité. Vous avez peut-être déjà vu ces trois sphères. Vous avez vu ça déjà dans vos cours, voilà. Donc, qu'est-ce que ça représente, ces trois sphères? Ça veut dire qu'on chercherait à traiter à peu près à pied d'égalité les enjeux sociaux, donc en fait les enjeux humains, les enjeux environnementaux, écologiques et les enjeux économiques. Donc, l'idée, c'est de se dire... Ben, souvent, dans la question du développement qu'on connaît à l'heure actuelle, on a plutôt privilégié à la sphère économique. L'idée, c'est d'essayer de traiter à égalité ces trois aspects. Donc, du coup, nécessité de mettre en place des démarches qu'on appelle interdisciplinaires et transversales, c'est-à-dire qu'il va falloir que les économistes y travaillent avec les sociologues et avec aussi peut-être les environnementalistes ou les associations de protection de la nature. Donc, en fait, sur ces deux éléments qui font consensus, derrière, au niveau de l'appropriation, c'est-à-dire quand les gens cherchent à mettre en œuvre dans leur structure la question du développement durable, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des dissensus très forts et des approches qui sont relativement différentes. L'approche, une des approches, qui est souvent assez répandue parmi les acteurs économiques, c'est une approche qui est qualifiée par les chercheurs, les différents auteurs, de durabilité faible, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment les trois sphères sur un pied d'égalité. On a quand même la sphère économique qui reste quand même considérée comme la sphère la plus importante. Ensuite, on a la sphère sociale avec les enjeux humains, et ensuite seulement vient les préoccupations environnementales. En gros, c'est un petit peu la phrase pour dire ça, c'est quand l'économie va, tout va. C'est-à-dire que si on est dans une bonne, allez-y, venez, installez-vous. Si on est dans une société où on a de l'argent, on peut se permettre d'utiliser de l'argent pour la santé sociale et on peut aussi se permettre d'utiliser de l'argent pour la protection de l'environnement. Mais cette approche, elle est basée sur une hypothèse qu'on exprime pas... Ouais, je vais vous laisser vous asseoir. Il y a de la place, il y a des places devant, n'hésitez pas à venir devant. Je ne mords pas. Bonjour. Voilà, donc cette approche qui paraît assez fréquente, je pense que dans les établissements où vous travaillez, s'il y en a qui ont déjà entendu parler de développement durable, c'est une approche que vous devez avoir déjà vécue, elle est basée sur une hypothèse qui est l'hypothèse de substitualité. Qu'est-ce que ça veut dire que ça, la substitualité? Ça veut dire qu'on considère que si on utilise aujourd'hui des ressources naturelles, par exemple du pétrole, différentes ressources naturelles, de l'eau, etc., c'est pas grave à la limite si on brûle, par exemple, le pétrole. à condition de transmettre un certain capital, donc ça peut être de la connaissance, ça peut être un équipement, ça peut être différentes choses. Donc on essaie de transmettre un capital aux générations qui vont nous succéder. Bon, par contre, si on brûle aujourd'hui le pétrole, on ne va plus pouvoir le brûler demain. Donc cette question de substitualité, sur laquelle repose finalement beaucoup, enfin tous les principes de la société qu'on connaît à l'heure actuelle, on peut aussi l'interroger. Et c'est ce que font les partisans de l'approche qu'on appelle durabilité forte, qui eux remettent en cause cette question de substitualité et qui disent que si on brûle une tonne de pétrole, la tonne de pétrole, on ne pourra plus l'utiliser. Et qu'il va peut-être y avoir un moment où la tonne de pétrole, on va vraiment regretter de l'avoir brûlée pour des fins peut-être pas indispensables, parce que ça va devenir quelque chose de très très rare et donc de très très cher. Voilà. Donc, les partisans de la durabilité forte disent qu'en fait, c'est l'environnement qui supporte toutes nos activités. Si on regarde comment on est habillé avec quoi ? Du coton ou des matières synthétiques qui sont issues quelque part de pétrole qui a été quelque part produit par des processus naturels. Si on regarde tout ce qu'on mange, l'alimentation, c'est un exemple très 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 fort, c'est-à-dire que l'alimentation, c'est tout des ressources naturelles, c'est-à-dire qu'à un moment, elles ont été plantées, fabriquées et qu'il y a eu besoin de terre pour les cultiver. Pour cultiver le blé qui va être considéré qui va servir à fabriquer le pain qu'on va manger, etc. Et donc, ce que disent les partisans de la durabilité forte, c'est que si l'environnement se dégrade à un tel point que on ne peut plus fournir les ressources naturelles dont on a besoin, ça va créer vraiment des problèmes très très forts sur la société. Et donc, ils disent, ce qui est important, vraiment, c'est l'environnement qui porte, en fait, toutes nos activités. Ensuite, on a les hommes, donc l'aspect social. Et après, seulement, on a l'économie qui, finalement, est un moyen, et c'est pas une fin. L'économie, c'est un moyen pour gérer les échanges entre les hommes sur Terre. C'est pas forcément une fin à optimiser. S'il y a une fin, ça peut être plutôt, à la limite, le bonheur de l'être humain, donc l'aspect social. Et donc, c'est une vision totalement différente, où les gens disent le capital naturel, il ne peut pas être remplacé, il ne peut pas être substitué. Donc, il faut essayer de préserver les grands équilibres écologiques pour pouvoir, si on veut, avoir une chance de continuer à vivre comme on vit actuellement. Et donc, on a des approches très différentes. L'approche consensuelle, donc surtout portée par les acteurs publics, qui va dire qu'il faut tout considérer sur le même plan. L'approche plutôt de durabilité faible, où on va dire l'approche économique est quand même prioritaire, et l'approche de durabilité forte, où on va dire le capital naturel n'est pas substituable, et donc ce qui est important, c'est de le privilégier. Alors, pour votre domaine qui est le tourisme, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait placer comme exemple de tourisme entre guillemets durable sur ces différentes échelles au niveau de la durabilité forte, par exemple, on aurait quel type de tourisme, par exemple ? Ouais, alors tourisme vert, vous entendez quoi par tourisme vert ? Ouais, alors à condition que ce soit plutôt proche de chez soi, c'est-à-dire effectivement proposer des activités aux gens qui soient proches de chez eux, ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup se déplacer, et ils puissent profiter, avoir des loisirs à proximité de chez eux. Comme ça, on n'a pas forcément besoin d'utiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Et en termes de durabilité, alors là, pour le coup, plutôt faible, qu'est-ce qu'on peut avoir ? À ce niveau-là ? Ouais, éventuellement, parce qu'on reste... On est peut-être plus dans le consensuel avec les panneaux solaires. Après, tout dépend du type d'établissement qu'on va avoir. Si ça permet... Par exemple, si c'est un refuge de haute montagne et que ça permet d'éviter de brûler du kérosène, à mon avis, ça c'est un bon exemple au niveau du consensuel. Durabilité faible, c'est-à-dire un tourisme qui crée à la limite de l'économie, éventuellement au niveau. Ça va être un tourisme qui va vraiment. créer du développement économique, alors peut-être dans des pays développés où il y a besoin d'économie pour permettre aux gens d'accéder à un niveau de confort plus élevé. C'est pas un jugement de valeur hein, de dire ça, c'est des approches qui sont différentes. Ça peut être par exemple le tourisme équitable, c'est-à-dire qu'on va faire les gens... Oui. Ouais, par exemple, c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'on va quand même consommer beaucoup de ressources pour que les gens ils se déplacent, donc éventuellement des transports en avion qui sont relativement onéreux pour l'environnement parce que beaucoup d'émissions de CO2, beaucoup de consommation de ressources, et en même temps il va y avoir une certaine activité économique locale qui va être produite. Le tourisme, ce qu'on appelle les vacances équitables, le tourisme équitable, vous avez peut-être entendu parler de ça dans en Afrique par exemple ou dans différents endroits du monde. Hein. Voilà, mais le contentieux là, il va vraiment porter sur le capital naturel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour le définir, qu'est-ce que c'est, et comment on va faire aussi pour le mesurer. Et c'est en ça que l'empreinte écologique est un indicateur intéressant. Bonjour. C'est-à-dire si on regarde que l'indicateur économique, ces différentes formes, puisque là on a pris l'exemple du tourisme, ces différentes formes de tourisme peuvent permettre de générer la même rentabilité économique à peu près. Par contre, si on regarde un autre indicateur avec d'autres lunettes, donc si on regarde plus l'aspect l'impact sur l'environnement, on pourra s'apercevoir qu'effectivement, si les gens, on leur propose des activités à proximité, des loisirs verts, ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup se déplacer, on pourrait avoir des faibles consommations de ressources naturelles. Alors si en même temps on leur dit, on les encourage à se déplacer, à aller à l'autre bout du monde, à consommer beaucoup de pétrole pour s'y rendre, etc. Là, on pourra avoir des indicateurs qui vont pouvoir montrer que l'impact est plus important. Donc, c'est l'intérêt de l'empreinte écologique d'essayer de quantifier ça. Donc, pour faire un petit schéma, pour voir les différents flux qui vont être pris en compte. Donc, on a d'un côté, donc ça, c'est classique hein, en économie, vous avez d'un côté des producteurs qui vont produire des biens ou des services, de l'autre côté, des consommateurs, donc par exemple des ménages. Donc producteurs produisent des biens et services. En échange de quoi, qu'est-ce qu'il va y avoir comme type de flux? Voilà, des flux d'argent, des flux économiques, donc qui vont permettre d'équilibrer les deux sur un aspect économique. D'un autre côté, les consommateurs, c'est aussi des gens qui travaillent, donc ils vont aussi fournir du travail et recevoir en échange des salaires. Hein, voilà. Et donc, les mesures, les indicateurs économiques qu'on utilise le plus classiquement, ça va essayer de mesurer quelle est la vitesse à laquelle tout ça, ça tourne. Quoi. Combien de flux vont être échangés entre les deux. Donc on va vraiment regarder à quelle vitesse tout ça tourne. Ce qu'on va chercher à voir, c'est un peu comme un compteur de vitesse. Et ce qu'on va chercher à voir avec l'empreinte écologique, ça va être plutôt comme la jauge du carburant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous reste comme réserve de ressources et qu'est-ce qu'on consomme par rapport à ces réserves-là. Et donc on va essayer de retracer tout l'énergie, les matières premières qui vont être consommées par notre société humaine et tous les déchets qui vont être générés par cette société humaine et pour lesquels on va demander à la nature d'assimiler ces différents déchets. Donc le capital naturel, en fait, ça va être ça. Voilà, donc pour que l'éconosphère puisse fonctionner, donc la sphère économique, on a besoin de puiser des ressources dans ce qu'on appelle la biosphère, donc la sphère biologique qui comprend tout le vivant, mais aussi l'eau, l'air, etc. Voilà, et donc on va faire l'hypothèse que on aura une situation de durabilité écologique à partir du moment où on va prendre conscience du fait que l'économie dépend de la biosphère, à la fois pour lui fournir son énergie, ses matières premières, qui sont nécessaires à son fonctionnement, et aussi pour épurer et assimiler, entre guillemets, et recycler tous les déchets, les pollutions que la société va générer. Et donc, on va essayer de quantifier ça, et cette quantification, ça va être ce qu'on appelle le capital naturel. Capital naturel qui n'est pas infini, puisque, vous savez, on est sur une planète qui est ronde, et donc la surface et toutes les ressources qui sont possédées sont finies. Enfin, fini au sens où ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais au sens où on en a une quantité finie, une quantité qui n'est pas infinie. qui n'est pas inépuisable. Alors l'empreinte écologique va se reposer sur ces deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que si on veut préserver le capital naturel, ben, il ne va pas falloir consommer plus de ressources naturelles renouvelables que ce que l'écosystème n'est capable de nous en fournir. Donc c'est la notion de renouvelabilité. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il ne faut pas produire plus de déchets que ce que la biosphère n'est capable d'en assimiler. C'est la notion de capacité de charge. Voilà, donc en fait, on va représenter l'économie un petit peu comme un organisme vivant qui va puiser des ressources dans le milieu et rejeter des déchets. Et l'unité qui va être utilisée, ben, ça va être les hectares, les surfaces, puisqu'en fait, l'hypothèse qui est faite, c'est que, en fait, sur la planète, la seule possibilité de fournir des ressources naturelles, donc qui vont être plutôt des ressources organiques, ça va être d'utiliser quel phénomène qui est préconisé, enfin qui est utilisé par les végétaux. La photosynthèse, voilà. Qui est la photosynthèse, donc qui permet, grâce à l'énergie du soleil et à l'utilisation de minéraux, ben, de fabriquer de la matière organique. Donc il y a un peu que les plantes et les végétaux qui sont capables de ça. L'homme, c'est pas trop encore fabriquer de la matière organique à partir seulement de minéraux. Et donc on a besoin de surfaces qui peuvent capter le soleil et donc fabriquer de la matière organique et assimiler nos déchets. Donc l'unité qui va être utilisée, ben, ça va être la surface appelée bioproductive. Et donc le principe de l'empreinte écologique, ça va être de comparer d'une part ben, l'offre en ressources naturelles, donc on va appeler la biocapacité, donc la surface, la quantité totale de surface disponible sur Terre. Donc on va chercher à comparer l'offre à la demande. La demande, ça va être la quantité de ressources naturelles qui va être consommée chaque année par l'humanité. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait... Ça marche plus, si. Comment est-ce qu'on fait pour calculer la biocapacité ? Ben, on va utiliser donc quand je dis on, c'est pas moi qui le fais, c'est une ONG américaine qui s'appelle Global Footprint Network, qui tous les deux ans publie avec le WWF un rapport qui s'appelle le rapport Planète Vivante. Vous pouvez trouver, il y en a un qui est sorti récemment, là, en novembre. Vous pouvez le télécharger sur Internet en cherchant rapport Planète Vivante. Et donc, en fait, ils vont utiliser des statistiques internationales, donc qui sont fournies par des agences de l'ONU, comme par exemple la FAO ou d'autres agences, qui vont comptabiliser très précisément dans chaque pays l'ensemble des types de sols disponibles. Donc on va avoir des surfaces pâturées, donc des prairies pour faire grandir les animaux qu'on va utiliser pour la viande, le cuir, etc., la laine. Des surfaces cultivées pour produire les fruits et légumes qu'on va consommer, des surfaces marines pour produire les poissons qu'on va utiliser, surfaces forestières, donc pour tout le bois, le papier, carton, etc., et des sols, les sols construits ou dégradés qui ne peuvent plus être utilisés, qui ne sont plus productifs en termes de rentabilité agricole, hein, par exemple, mais qui vont être utilisés pour les habitations, les infrastructures de transport, etc. Et donc dans le monde, en 2007, puisque le rapport 2010 en fait se base sur des statistiques internationales, donc il y a toujours un décalage d'à peu près 3 ans, il y avait 11,9 milliards d'hectares dans le monde qui étaient, entre guillemets, disponibles pour fabriquer les ressources nécessaires à l'humanité. Et en fait, quand on parle d'hectares, on voit qu'on a des sols très différents. Par exemple, une forêt va avoir un rendement très différent d'une prairie en termes de tonnes de produits de ressources naturelles par hectare. Et de même, entre les différents pays, par exemple, un sol cultivable en France va avoir un rendement peut-être beaucoup plus fort qu'un autre, le même type de sol cultivable, mais au Maroc. Donc, pour essayer d'avoir une unité un petit peu homogène, on va avoir des facteurs de conversion entre ces différents hectares, donc, et on va avoir l'unité de mesure, hein, qui, dans le PIB, c'est quoi l'unité de mesure, hein? L'euro ou le dollar, voilà, ça va être la monnaie. Et bien là, pour l'empreinte écologique, ça va être l'hectare global. Donc il y a une unité de mesure fictive, mais basée sur des hectares réels. où on va multiplier par des facteurs d'équivalence et des facteurs de rendement pour en fait avoir un hectare qui produit qui a une productivité moyenne mondiale. Voilà. Donc du coup, par exemple, si on regarde les hectares effectifs dans le monde, les forêts qui sont très productives en termes de tonnes enfin voilà, ça peut produire beaucoup de tonnes de bois par hectare. Donc ça va avoir, en termes d'hectares globaux, ça va avoir un poids beaucoup plus fort que par exemple les surfaces de pêche, où on va avoir besoin de beaucoup plus d'hectares pour produire le même nombre de tonnes. Donc là, leurs surfaces vont être réduites. Voilà, et donc, le principe de l'empreinte écologique, ça va être ça. Ça va être de comparer l'offre et la demande. Donc, c'est un outil comptable, c'est-à-dire que ça va se baser derrière sur des calculs basés sur des statistiques internationales. Hein, c'est pas un chiffre qui va être lancé comme ça. Il y a des calculs assez poussés derrière, qui va essayer d'estimer la consommation nette de ressources naturelles d'une population donnée et ses besoins d'absorption en termes de surface. Voilà, donc si on regarde l'empreinte écologique, donc on a les mêmes types de sols que les sols de biocapacité que je vous ai montré tout à l'heure. Donc par exemple le sol, on a tous les sols, donc fishing c'est les pêcheries, cropland c'est les sols cultivés. Et ça va être tout ce qui va être nécessaire pour produire les biens agricoles qui sont consommés. Surface artificialisée, donc tout ce qui est nécessaire pour abriter nos activités, donc en termes de bâtiments, mais aussi tout ce qui va être infrastructure de transport, les routes, les parkings, etc. Les forêts, c'est tout ce qui va être nécessaire pour produire les bois, papier, carton qu'on va utiliser. Et le sol carbone, c'est la surface de forêt qui serait nécessaire pour assimiler les émissions de CO2 qui sont générées par nos activités. Voilà, et les pâturages, c'est tout ce qui est nécessaire pour produire tous les produits animaux qu'on va utiliser, donc que ce soit voilà, le cuir, la laine, mais aussi et surtout la viande. Voilà, donc en fait, le principe, après derrière, je vais vous épargner les calculs, mais juste pour vous dire qu'en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'on va mesurer l'empreinte écologique liée aux consommations d'une population donnée. C'est-à-dire quand on a des pays qui ont délocalisé leur production vers d'autres pays, c'est quand même le pays qui va consommer les biens qui ont été produits qui va se voir attribuer les impacts liés à la fabrication. Donc pour prendre un exemple concret, on utilise, ben vous voyez dans cette salle, il y a déjà au moins 3 ou 4 ordinateurs. Ces ordinateurs, ils n'ont sûrement pas été fabriqués en France. En général, la plupart des ordinateurs sont fabriqués plutôt où ça ? En Chine, voilà. Et ben, les ressources naturelles qui ont été utilisées pour fabriquer ces ordinateurs, on va par choix méthodologique les attribuer, les imputer à la France, puisque c'est les Français qui les consomment, et non aux Chinois. Ce qui permet d'avoir ce qui permet d'éviter de voir une empreinte écologique qui baisserait, juste parce que finalement on a exactement le même mode de vie, mais on délocalise toute la production, ce qui ne serait pas une vraie réponse par rapport aux enjeux écologiques. Voilà, donc après, les sols cultivables, l'équation va être assez simple. On va regarder tout ce qui est consommé, par exemple, de blé par an. On divise par le rendement, puisqu'on sait très précisément dans tous les pays, donc sur la FAO, il y a des bases de données publiques où on peut savoir très précisément quelle est la surface nécessaire pour fabriquer une tonne de blé. Et en multipliant par les différents facteurs de rendement et d'équivalence dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va avoir une empreinte écologique. Et bon, les sols construits, bon, on va mesurer la surface. Donc là, c'est pareil. Il y a par exemple Corinne Landcover, qui est une base de données, enfin avec une observation de satellite. Ça va être une base de données qui va mesurer très précisément dans chaque pays les surfaces qui vont être artificialisées. Donc on va utiliser ces données. Et au niveau du sol carbone, donc vous savez, il y a une comptabilité carbone qui se fait de plus en plus, qui est de plus en plus généralisée dans l'ensemble des pays. Et donc, on va prendre les émissions de CO2 qui sont générées par les pays. On va enlever ce qui peut être absorbé par les océans. En gros, il y a un quart des émissions. Enfin, en gros, on va dire ça autrement. Les océans peuvent absorber seulement un quart des émissions générées par l'ensemble de l'humanité dans le monde. Donc, puisque ce quart-là, il va être absorbé par les océans, on ne va pas le comptabiliser en termes de surface, donc on l'enlève. Mais Voilà, si à terme les océans sont saturés, peut-être qu'il va falloir revoir cette hypothèse-là. Et donc, du coup, ceux qui font les calculs d'empreinte écologique vont essayer de mesurer quelle serait la surface nécessaire pour absorber les émissions qui vont être générées par une population donnée. Donc, du coup, je vous ai dit tout à l'heure, une biocapacité dans le monde de à peu près 12 milliards d'hectares. Et l'empreinte écologique de l'humanité entière, elle est égale à 18 milliards d'hectares. Donc on voit déjà que quand on cherche à comparer l'offre à la demande, on a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on va, à l'heure actuelle, on consomme plus de ressources que ce que la nature n'est capable d'en produire chaque année. Sachant qu'en plus, ce chiffre-là, il est sous-estimé parce que il y a des tas de points qui ne sont pas pris en compte par l'empreinte écologique. Donc c'est, on devrait plutôt dire, l'humanité consomme au moins 18 milliards d'hectares. Voilà, donc comment se répartissent ces consommations? Vous avez donc là les pays, tous les pays de l'OCDE, donc je crois que vous savez ce que c'est. Ça va être tous les pays les plus développés. Donc vous voyez qu'on est en moyenne autour entre 5 et 6. La France, on est à autour de 5 hectares globaux par habitant. Les États-Unis, eux, ils sont plutôt autour de 10. Donc cette moyenne, elle cache déjà des diversités assez importantes. Mais bon, ça donne un ordre de grandeur. En abscisse, là, vous avez la population. Donc, vous voyez qu'en gros, il y a 20% de la population qui a l'empreinte écologique vraiment la plus élevée. Après, on a des pays, là, c'est des pays qu'on appelle BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, qui ont pour l'instant encore une empreinte écologique égale à la biocapacité disponible. La biocapacité, dont je vous ai expliqué, c'est la surface disponible dans le monde par habitant. Donc on voit qu'ils sont encore, même si... Alors pourquoi on a ce chiffre? C'est-à-dire que pourtant, ce sont un peu l'usine du monde, hein, ces quatre pays. Mais comme on attribue les productions aux pays de l'OCDE, qui sont les plus gros consommateurs, eux, ils restent encore avec une biocapacité, avec une empreinte égale à la biocapacité. Et après, on a d'autres pays, donc là, c'est tous les pays d'Asie qui ne sont pas dans l'OCDE. Et enfin, on a l'Afrique qui, eux, ont des modes de vie où là, en termes de développement du humain, on a des pays où les gens sont très très pauvres, il y a beaucoup de problèmes en termes humains, mais qui ont un mode de vie qui est très très économe en termes de consommation de ressources naturelles et qui reste donc en dessous de la biocapacité. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'au niveau global, on a ce qu'on appelle un déficit écologique, c'est-à-dire que si on regarde la moyenne de consommation, on est au-delà. Alors pourquoi on est au-delà? On est au-delà parce qu'il y a 20% qui consomment vraiment beaucoup plus. Mais que les 80% du monde, eux, ils sont plutôt dans ce qui serait nécessaire. Alors si on regarde par exemple l'évolution de l'empreinte pour un pays comme la France, on voit donc ça en vert, vous avez la biocapacité, donc il y a plutôt tendance à réduire puisqu'on exploite par exemple les sols, ceux-ci deviennent de moins en moins productifs, donc on a une biocapacité qui diminue. Et une empreinte écologique qui a plutôt tendance à augmenter. Et donc on voit que la biocapacité de la France est déjà bien supérieure. On est dans un pays particulièrement fertile. Enfin, on est particulièrement chanceux, entre guillemets, par rapport à la capacité de notre territoire. Ça se voit, puisqu'on a une biocapacité supérieure à la biocapacité moyenne dans le monde, par rapport à d'autres pays, comme les pays du Sahel, où leurs terres vont être beaucoup moins productives. Mais on voit qu'on est quand même au-delà de notre biocapacité et qu'on a été au-delà à partir des années 60. Jusque dans les années 60, on avait un mode de vie qui restait à peu près dans les limites du renouvellement chaque année des ressources disponibles. Et qu'est-ce qui a évolué, en particulier de 60 aux années 2000? En 60, la moitié de l'empreinte écologique, c'était l'alimentation. Les surfaces, le capital naturel, on l'utilisait principalement pour se nourrir. Donc on voyait que là, la moitié, c'était l'alimentation. Aujourd'hui, on consomme toujours autant en termes alimentaires. Cette part-là, là, vous avez un schéma en pourcent. Donc certes, cette part-là, elle est toujours aussi grande en valeur absolue, mais en valeur relative, elle a fortement baissé au profit des consommations liées aux émissions de CO2, aux consommations énergétiques. Donc on voit qu'on a un mode de vie qui a évolué et où d'une, de besoins qui étaient plutôt par rapport à des ressources naturelles liées aux consommations humaines, donc des choses qui sont indispensables, on est passé à des consommations énergiques beaucoup plus fortes, liées par exemple à quel, à quoi ? Qu'est-ce qui fait que dans nos modes de vie, qu'est-ce qui a évolué pour qu'on passe des consommations énergétiques ? C'était juste très... Et ouais, pardon ? Ouais, j'ai compris. Le monde, ouais, et donc du coup, c'est quoi du coup comme thème qui a beaucoup évolué ? Donc il y a effectivement les consommations énergétiques. C'est vrai que les consommations d'électricité ont beaucoup augmenté. Les transports. Voilà, les transports. Voilà, les transports. En 61, on faisait beaucoup moins de kilomètres que ce qu'on en fait alors aujourd'hui. Hein, les, si on regarde les statistiques, en termes de nombre de kilomètres par, par individu moyen par an, en 61, en termes d'heures de transport, on était peut-être à peu près pareil parce qu'on avait des modes de transport moins rapides, mais en nombre de kilomètres et donc de consommation, les transports ont beaucoup évolué. Pas seulement, évidemment, les ressources, enfin, les consommations d'énergie des bâtiments, enfin, il y a beaucoup de, d'indicateurs où on est plutôt vers une augmentation. Un autre indicateur qui... Pourtant, enfin là, on va attendre, enfin on va vers le développement durable. On était surtout vers l'aspect écologique. Un autre indicateur qui peut être utilisé alternatif à l'utilisation du PIB pour regarder la notion de développement humain, c'est l'indice de développement humain. Vous en avez entendu parler ? L'IDH, voilà, très bien. Donc, qui est un indicateur officiel, hein, qui est suivi par le programme des Nations Unies pour le développement, qui a été proposé. Par Mathias Sen, qui est maintenant prix Nobel, qui a été ensuite prix Nobel. Enfin, c'est un indicateur qui est vraiment reconnu et qui prend en compte, le PIB est pris en compte, hein, dans l'IDH, puisque un tiers de la note que les pays vont avoir à l'IDH, ça va être l'accès à un niveau de vie décent, donc qui est pris en compte là. Mais il y a aussi deux autres éléments qui sont pris en compte. Ça va être l'espérance de vie, donc le fait qu'un pays permette à ses habitants d'avoir une vie longue et saine, hein, de pouvoir ne pas mourir à 30 ans, hein, mais d'avoir une vie, une espérance de vie plus élevée, et l'accès à la connaissance, donc à la fois par le taux d'alphabétisation et le taux de scolarisation. Donc en fait, l'IDH est un indicateur qui est normé, c'est-à-dire qu'on regarde comment les différents pays se situent, et pour chacun de ces points, il va y avoir une note de 0 à 1 qui va être donnée. 1 étant l'indicateur, enfin le pays qui est, enfin, ou alors théoriquement le meilleur, et 0 étant quand c'est vraiment très bas. Et donc on va avoir trois indices, l'espérance de vie, l'indice d'accès à l'éducation et l'indice sur le PIB. On va faire la moyenne pour obtenir l'indice de développement humain. Et donc si on regarde le développement durable comme étant un développement qui à la fois permettre d'avoir un bon indice de développement humain, voilà, tout en... Donc en fait, on en était... C'est un petit exercice que je vous propose où on va essayer de se dire, dans le monde, quels sont les pays qui sont dans un mode de développement qui peut être considéré comme... C'est bien, au moins, ça a réveillé tout le monde. On va tous s'endormir, c'est très bien. Donc, quels sont les pays qui sont dans un niveau... qui ont un niveau de vie, ou plutôt un mode de vie qu'on peut considérer comme relevant du développement durable. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que le PNUD dit qu'un pays est considéré comme, entre guillemets, développé si son IDH est supérieur à 0,8. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des pays comme la France, hein, qui vont être au-dessus de 0,8, dans d'autres pays qui vont être en dessous. Et l'empreinte écologique, on l'a vu avec la biocapacité, au-dessus de 2,1 hectares par habitant, on va dépasser les ressources de la planète. Si on est en dessous, on va avoir un mode de vie qui est toujours dans les limites de la planète. Et donc, on va essayer de positionner les différents pays sur ce graphe. Alors, à votre avis, quels sont le ou les pays qui vont être situés dans la sphère, le cadran développement durable, c'est celui-là, c'est-à-dire un niveau de développement supérieur à 0,8 et un mode de vie qui fait qu'on est à moins de 2 hectares par habitant. À votre avis, on va voir quoi comme pays là-dedans ? Alors, les pays d'Afrique, ouais, peut-être. Alors, ouais, est-ce que les pays d'Afrique ils vont avoir un IDH supérieur à 0,8? Ouais, voilà, c'est plutôt les pays du Nord. Donc, les pays d'Afrique, ils risquent d'être plutôt par là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Pays nordiques, Alors, c'est souvent quand on pose la question, c'est souvent ce qu'on passe. Donc, vous pensez qu'ils ont une empreinte écologique inférieure à la biocapacité, on verra ça. Alors, peut-être les briques, donc qui aura un IDH supérieur à 0,8. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent être les briques, peut-être par là. L'Islande, bon. Alors, on va regarder ça. Donc, alors là, ouais, quand je vous ai montré là, les différents pays, là, on était sur les valeurs 2007. Là, l'animation qui va suivre, c'est sur les valeurs 2005. Donc, ça a peut-être un petit peu évolué. Mais en gros, on garde les mêmes... Ah, non. Hop. Voilà, je vais faire là. Replay, voilà. Donc là, vous avez l'évolution entre les années 60 et l'année 2003 des différents pays. Donc vous avez le quadrant développement durable. Et donc vous voyez que les différents pays, ils sont positionnés selon une courbe. Donc il y a un peu la forme d'une logarithme. Donc les pays d'Afrique, ils vont être plutôt là, hein, effectivement, avec des IDH. Je vous ai dit, l'IDH, il y a le PIB, l'accès à l'éducation et l'espérance de vie. L'espérance de vie en Afrique est malheureusement plutôt faible par rapport à ce que nous, on peut connaître. L'éducation est aussi malheureusement bien faible. Donc du coup, bon, l'Afrique, on va avoir un IDH plutôt faible. En bleu, vous avez les pays d'Amérique latine qui se positionnent plutôt pas mal hein, dans l'ensemble, et pas vraiment là. Alors les pays du Nord scandinave, ils vont être, je crois qu'on les voit pareil, si je viens là. Ils vont être plutôt par là, voilà, Norvège, Suisse, etc. En fait, les pays du Nord, par définition, il fait froid, donc il y a quand même besoin de beaucoup d'énergie pour chauffer les logements. C'est aussi des pays qui sont très grands, donc ils se déplacent aussi beaucoup. Donc du coup, ils ont, contrairement à l'image verte qu'on peut avoir d'eux, ils ont quand même des consommations de ressources, en particulier de ressources fossiles, parce que la Norvège, par exemple, a du pétrole, donc des consommations de pétrole qui sont relativement élevées. La France, on est par là, autour de... Voilà, la France, on est par là, voilà. Et donc là, le seul pays, donc là, il n'est pas représenté, mais et c'est toujours vrai en 2007, il n'y a qu'un seul pays qui est situé là, et donc... Quand je vais vous le dire, ça va vous amener aussi à vous poser la question hein, du choix des indicateurs. C'est Cuba, en fait, qui est le seul pays qui a un IDH supérieur à 0,8, parce que Cuba, donc, c'est une dictature, mais avec beaucoup de moyens qui sont mis pour la santé publique et pour la scolarisation des enfants. Donc, un IDH qui est relativement bon. Et en même temps, vu que Cuba, ils sont sous embargo sur le pétrole depuis très longtemps, ben, ils ont développé des modes de vie où ils se sont un peu affranchis du pétrole et où ils ont du coup une empreinte écologique relativement faible. Donc, bon, l'IDH ne mesure pas la liberté de s'exprimer, ne mesure pas la démocratie, le droit de vote, etc. Donc l'IDH, on ne lui fait dire que ce qu'il dit, qu'on ne va pas lui faire dire d'autres choses. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est pas forcément durable sur tous les niveaux, mais... Pour l'anecdote, c'est le seul pays qui est là. Il y a le Costa Rica qui est très proche. Mais le seul pays à être vraiment là, ça va être Cuba. Je vais vous dire non. Non, la Chine a une empreinte... C'est les Émirats Arabes Unis. Voilà. Ils sont producteurs de pétrole, donc énormément de consommation de pétrole. La Chine a un IDH encore faible. Et comme la Chine, elle doit être... voilà, elle est là. Comme, en fait, je vous l'ai dit, en fait, toute l'énergie consommée, si on regardait juste les émissions brutes de la Chine, on aurait la Chine comme premier, enfin plus fort, entre guillemets, pollueur. Mais comme on regarde, on enlève toutes les émissions liées aux biens qui vont être consommés par d'autres pays, la Chine a une empreinte écologique qui reste bien au-delà de la biocapacité pour l'instant. Quoi. Voilà. Avec l'augmentation du niveau de vie et des modes de vie, le changement des modes de vie, ben, la Chine a une empreinte écologique qui augmente, mais en même temps reste encore dans la limite. Oui. Tout à fait, pour l'instant, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, oui et non. Enfin, c'est vrai que, disons, ce qu'on voit là-dessus, c'est pas que pour être... oui, quelque part, oui, c'est vrai que pour être développé avec notre mode de développement actuel, eh ben, il se trouve que, effectivement, la tendance, c'est plutôt d'être vers plus de pollution. Mais ce qu'on voit, enfin, on peut voir déjà plusieurs choses. Déjà, c'est que ce qu'on voit, c'est que pour tendre vers le développement durable, les pays du Sud ont, enfin, nous, on a autant de chemin à faire pour tendre vers ça que les pays du Sud n'ont de chemin à faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément là comme donneur de leçons par rapport aux pays du Sud. En ça, je vous rejoins, c'est-à-dire que, effectivement, le mode qu'on a suivi n'était pas forcément celui qui était durable et que donc on a aussi des choses sûrement à apprendre des pays du Sud. Après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on peut avoir à peu près le même niveau de vie, c'est-à-dire un IDEH entre ce pays-là, je sais pas ce que c'est, et celui-là, on a des IDEH à peu près similaires, mais avec des modes de vie très différents. Par exemple, les Américains qui doivent être par là, bon, on ne peut pas dire que les Américains ils vont être trois fois plus heureux que les Français. Par contre, ni qui sont trois fois plus, entre guillemets, développés que les Français. Par contre, leur empreinte écologique est deux fois plus forte que les Français. Donc, on peut avoir... et les Français, on peut encore pas les meilleurs, quoi. Il y a des pays qui ont des IDEH relativement élevés. Par exemple, là, c'est quoi? La Hongrie, voilà, l'Argentine, Chili. On peut avoir des niveaux de vie relativement à peu près égaux, mais avec des modes de vie très différents qui font qu'on va avoir des impacts sur l'environnement qui vont aussi être très, très différents. Et que donc, ça ne veut pas forcément dire revenir en arrière et revenir à une espérance de vie faible. Au contraire, c'est pas ça. Enfin, développement durable ne veut pas tendre vers ça. S'il vous plaît, vous écoutez ou vous êtes parti? Par contre, ce qu'on veut, c'est éviter, du fait d'une pression tellement forte sur les ressources naturelles, de retourner vers des modes de développement très faibles, en y étant obligé, forcé, contraint par des guerres, par des pressions sur les ressources très fortes, quoi. L'idée vraiment du développement durable, c'est d'essayer d'anticiper ces problèmes-là, quoi. Hop, voilà. Alors, comment anticiper, justement? Ah, ça marche plus, ça, maintenant. Comment essayer d'anticiper par rapport à ça? Pourquoi ça marche plus? Qu'est-ce qu'il a? Bon, ça ne veut plus. Hop, je vais repartir. Voilà, une approche pour essayer d'anticiper. Donc, c'est une approche, hein, je ne dis pas que c'est l'approche parfaite, mais c'est une approche qui se développe pas mal en ce moment, qui a été proposée... pour la France du moins, elle est portée par une association qui s'appelle l'association Négawatt, qui était au début une association plutôt d'ingénieurs, qui travaillait au début plutôt dans le domaine du bâtiment, et qui petit à petit s'est élargie à des sociologues, des journalistes, enfin des experts, domaine d'experts beaucoup plus large, et qui dit que dans tous les domaines, si on veut essayer de réduire nos consommations énergétiques, puisque c'est surtout ça, hein, qui pose problème par rapport à l'empreinte écologique, on l'a vu, ben, ce qu'il faudrait, ce serait avoir une démarche en trois étapes. La première démarche indispensable, c'est l'approche de la sobriété, c'est-à-dire d'abord se poser la question, faire les bonnes choses. Donc, ça peut être en termes d'organisation, par exemple en termes de transport, éviter des transports inutiles, donc par exemple par des visioconf, etc. Au niveau du bâtiment, typiquement, est-ce que il y a beaucoup de bâtiments qui sont chauffés à l'heure actuelle à 22, 23 degrés, alors qu'en fait, la réglementation thermique impose que les bâtiments publics soient chauffés à 19 degrés. Et que 1 degré en plus, c'est autour de 7 à 10% de consommation d'énergie en plus. Donc si on était à 19 degrés, on mettrait un pull en plus, on serait tout aussi bien, mais on consommerait considérablement moins. Donc la première étape, c'est ça. C'est d'abord, pour l'énergie, se poser la question des bonnes choses à faire. La deuxième étape, c'est l'efficacité, faire bien les choses. C'est-à-dire que, par exemple, pour un bâtiment, on peut avoir un bâtiment qui est une passoire thermique, et pour avoir un certain niveau de confort, il faut consommer énormément d'énergie. On peut avoir un bâtiment bien conçu, bien isolé, et avoir pour le même confort, avoir une consommation qui peut être 4 fois plus faible. De la même façon, on a des équipements, par exemple des frigos, qui vont consommer, qui vont avoir un spectre de consommation très, très différent. Donc, toujours penser qu'on investit, que ce soit dans un équipement de transport, une maison, etc., au couple, investissement plus fonctionnant, pas prendre le moins cher à l'achat, mais toujours dire en termes d'utilisation, qu'est-ce qui va revenir le moins cher dans la globalité de la vie du produit acheté. Au niveau des transports, par exemple, c'est beaucoup plus efficace en termes de ressources de privilégier des fournisseurs locaux quand c'est possible. Et par exemple, si le prix du pétrole augmente, ben, on va s'apercevoir que c'est aussi la bonne stratégie économiquement parlant. Et enfin, mais seulement si on a fait les deux étapes du dessus, l'idée c'est de privilégier des énergies renouvelables. Donc à la fois donc qui permettent donc par exemple le solaire, l'éolien, etc. Mais on ne pourra pas, si on est dans des donc les gens de l'association Négawatt disent qu'on est dans une société d'ébriété énergétique, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup trop d'énergie par rapport à ce que la nature peut nous en fournir. On ne pourra pas, dans notre situation d'ébriété énergétique, fournir toute l'énergie qu'on doit consommer, enfin qu'on consomme actuellement, juste avec des renouvelables. Par contre, si on est vraiment dans une démarche globale de réduction des consommations, bah, les gens de cette association font régulièrement des scénarios qui montrent que c'est tout à fait possible donc, d'envisager une transition vers moins de consommation d'énergie fossile et fissile, mais en ayant des vraies politiques dès aujourd'hui d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique et aussi de développement des énergies renouvelables. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce qu'on peut constater à l'heure actuelle. Donc pour revenir à une échelle plus micro-économique, nous, donc avec Aurélien Bouteau, on avait fait un travail sur un quartier donné. Et donc on s'était aperçu que si, parce que la question c'est souvent qui c'est qui doit agir, est-ce que c'est moi en tant que citoyen, individu, ou est-ce que c'est la société, si la société fait rien, moi je fais rien, etc. Ben, l'idée c'est de dire que les deux doivent agir un peu main dans la main. Et que si, la situation actuelle, on est dans un comportement individuel de type laisser aller, on ne fait pas attention à tout ça, et si au niveau collectif, il n'y a pas de prise en compte non plus de ça, forcément on est à une empreinte écologique égale à 3 planètes, la moyenne française à peu près. Par contre, si à la fois il y a un comportement individuel fort et aussi une prise de conscience collective, on peut atteindre vers un scénario optimal, mais que c'est obligé, enfin il faut qu'il y ait les deux approches. Si on prend un exemple par exemple sur les transports, la tendance actuelle, périurbanisation, des sites géographiques monofonctionnels où la seule voie de transport entre les deux ça va être la voiture, et avec un comportement laissé aller on va se dire pour mon confort j'ai besoin d'une grosse voiture avec la climatisation etc. qui va consommer beaucoup, on va être en gros par personne, par an autour de 1 hectare. Si on fait un choix individuel de ne pas avoir de voiture, de privilégier les transports en commun ou les modes doux de déplacement, mais qu'en même temps la collectivité prend en charge et permet cela, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si la collectivité permet cela à la fois au niveau des déplacements en centre-ville, mais aussi déplacements en région, par exemple, on peut réduire très facilement de 10 son empreinte écologique vis-à-vis des transports, en réduisant l'usage de la voiture individuelle. De la même façon, sur l'alimentation, par exemple, si on est dans les tendances actuelles avec des productions industrielle de nourriture qui donc consomme beaucoup d'énergie tout au long du cycle de fabrication de la nourriture, avec un comportement plutôt laissé aller très carné, on est à autour de 1,7 hectare global par an, alors que si on fait un comportement volontaire individuel de réduire la consommation de viande, quand on regarde l'impact de l'empreinte écologique, on s'aperçoit très vite que la viande un impact très important. Donc ça ne veut pas dire réduire totalement la viande, mais avec une utilisation plus modérée. Et si en même temps, au niveau de la production générale, il y a une organisation différente avec les rapprochements entre les petits producteurs et les consommateurs, on peut aussi réduire l'empreinte écologique. Donc on réduira moins. On avait vu, et l'empreinte écologique de l'alimentation, c'est quelque chose qui reste important. Mais on a besoin pour vivre, on a besoin d'alimentation, donc on ne va pas chercher à mettre à zéro, évidemment, notre empreinte écologique et tous nos postes. Mais ce qu'on va chercher, c'est d'essayer de chasser toutes les pertes. Et souvent, on s'aperçoit aussi qu'en faisant ça, on gagne aussi de la convivialité. Par exemple, typiquement, les AMAP. Vous connaissez le système des AMAP ? Oui ? Non ? Oui ? Non. Le système des AMAP, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Alors, je ne sais pas si ça existe ici. Je sais que Saint-Étienne, ça marche très très bien. En fait, c'est des producteurs, des maraîchers locaux qui vont signer des contrats avec une association de consommateurs. Et par exemple, tous les jeudis soirs, les producteurs vont amener des paniers qui ont été prépayés par les consommateurs. Et les gens viennent et prennent directement leur panier. Donc, c'est une organisation différente parce que le consommateur ne choisit pas les produits de son poids de panier. Mais par contre, pour le producteur, c'est plus confortable parce qu'il est payé à l'avance. Il sait combien il va vendre de produits, donc il fait beaucoup moins de gaspillage. Il gaspille plus tout ce qu'il a coupé et qui est invendu, qui ne peut pas être vendu le lendemain parce que c'est plus frais, etc. Et le consommateur, lui, du coup, a des produits moins chers puisque le producteur a moins de gaspillage. Et des produits aussi plus frais, il sait d'où ils viennent, etc. Donc, et aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça crée vraiment de la convivialité parce que tout le monde vient chercher son panier à la même heure. Puis, au bout d'un temps, on se connaît, on discute, on échange des produits quand le céleri, ça ne me plaît pas, j'aime bien ta courge, etc. quoi. Et sur une organisation qui était au début un choix politique, enfin, c'est ce qu'on constate à Saint-Étienne. Hein. Au début, à Saint-Étienne, il y a 5-6 ans, il y avait une AMAP. À l'heure actuelle, il y en a une dizaine avec une centaine de familles par AMAP où on n'a plus des... Au début, c'était plutôt vraiment des militants motivés. Aujourd'hui, c'est vraiment des gens et des mères de famille qui se disent « c'est des meilleurs produits, c'est vachement plus confortable pour moi et c'est moins cher ». Donc ça devient vraiment un acte plutôt pratique qu'un acte citoyen. Oui, il y avait une question. Donc après, c'est vrai que est-ce qu'il vaut mieux faire sa soupe chez soi? Donc on a peut-être plus de pertes énergétiques plutôt que la faire de façon industrielle. Bon, il y a quand même des études qui montrent que si on utilise des produits plus locaux, ça permet quand même de réduire sur l'ensemble du cycle de vie la consommation énergétique globale du produit. Ça a aussi un effet, effectivement, peut-être que l'impact est relativement faible, il existe quand même, mais après ça a aussi un effet sur la sensibilisation des gens à se dire je vais peut-être pas utiliser des tomates en hiver parce que je m'aperçois que mon producteur il vend pas des tomates en hiver et que du coup on évite soit de la production sous serre dans le sud de la France, soit de la production sous serre en Andalousie. Ça a quand même, je pense, un impact. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des études sociales qui ont été faites qui montrent que c'est très positif, des études économiques aussi pour les exploitants. Mais il n'y a pas encore eu d'études vraiment environnementales qui ont été faites. Mais a priori, je pense qu'on y gagne quand même par rapport à ça. Voilà, donc c'est bien le débat, il est déjà parti. Donc, si vous avez d'autres commentaires... d'autres remarques aussi là-dessus ou sur l'autre.